Quel sera le plus grand changement que nous connaîtrons dans la vie éternelle? Je rassure ceux qui me reprochent de parler trop souvent de la mort. Je ne parle pas de la mort dans ce qu'elle a de douloureux, mais dans ce qu'elle a de lumineux, de la façon dont elle doit et elle peut éclairer ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Quel sera donc le plus grand changement de la vie éternelle? En dehors, évidemment, de la rupture radicale de ce qui constitue la mort, c'est-à-dire la vision de Dieu. C'est ça la mort. Enfin, nous verrons Dieu de nos yeux. Mais quel sera donc le plus grand changement que nous connaîtrons? Eh bien, il n'y aura plus de patron, plus de chef, plus de supérieur, plus de maître, en dehors de Dieu. Il n'y a donc plus, forcément non plus, de serviteurs, d'esclaves, de larbins.
Ah,
on pourra peut-être utiliser les damnés? Non, non. Plus de grands, plus de petits. Quand Jésus, à un moment dans l'Évangile, dit de Jean-Baptiste que lui, le plus grand des enfants des hommes, eh bien, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il annonce la disparition de ses relations de domination et de service. Dans la vie éternelle, nous serons enfin pleinement à égalité. Et nous n'aurons plus envie, nous n'aurons même plus l'idée de nous exploiter les uns les autres, de nous assujettir. Pourquoi est-ce que nous cherchons autant? Pourquoi acceptons-nous parfois? Pourquoi rêvons-nous si souvent de nous faire servir? D'avoir des gens à notre service? Pourquoi les grands de ce monde se font-ils donc servir? Il y a des raisons, objectivement, qu'on peut qualifier d'objectivement raisonnables. Il y a des raisons pour se décharger des tâches matérielles. Je peux en citer quelques-unes. Les plus faciles, gagner du temps. Gagner du temps parce que les choses matérielles prennent effectivement du temps. J'ai bien vu aujourd'hui, pour préparer cette messe, ces jours-ci, je vois, j'ai été avant curé d'une grosse paroisse où il y avait beaucoup de salariés, il y avait des sacristains, secrétaires, cuisinières, tout ça. Je vois ici, m'occuper de tout, faire le tirage des feuilles, je vois la différence. Il y a évidemment l'économie de temps. Il y a l'objectif aussi, pour tout le monde, d'avoir l'esprit libre, libéré de toutes les préoccupations matérielles, de savoir tout ce qu'on a à penser, à organiser, à préparer. Libéré de ses préoccupations, et puis, dans certains cas, dans l'exercice de hautes responsabilités, qui ne sont pas les miennes, il y a la nécessité de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble. Vous connaissez le proverbe « chacun voit midi à sa porte », il est important que ceux qui ont effectivement une mission de direction, de gouvernement, puissent prendre de la distance. Ce sont de bonnes raisons. Ce sont de bonnes raisons. Il ne faudrait pas qu'elle masque ce qui arrive parfois, l'idée orgueilleuse que nous puissions être au-dessus de tout ça. Et quand Pierre se récrie devant le geste de Jésus, « Non, non, pas toi !» il oublie la plus grande leçon de l'incarnation. La plus grande leçon de l'incarnation, c'est que ce qui n'est pas digne de Dieu n'est pas digne de nous. Voilà ce qui devrait être la maxime de notre vie. Ce qui n'est pas digne de Dieu n'est pas digne de nous. Aujourd'hui, en ce jeudi saint, nous fêtons les prêtres. Et je pense que vous préférez tous qu'ils donnent la priorité à la préparation de leurs homélies plutôt qu'à l'administration de la paroisse, voire à l'entretien de l'Église. Le Concile Vatican II, dans les années 60, a réinstauré le diaconat permanent. Il a réinstauré le diaconat permanent en se souvenant des actes des apôtres, quand les 12 apôtres ont convoqué l'ensemble des disciples et ils ont dit « Ah, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il dit « Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, qu'on va établir dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous, nous resterons assidus à la prière et à la parole de Dieu. Le service de la parole. Ils n'ont pas dit « laissons ça aux femmes ». Ils ont au contraire cherché les meilleurs d'entre eux. Vous en avez deux là, devant vous. Les meilleurs d'entre eux. Des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, pour s'acquitter de cette charge. Avec un grand respect pour ces tâches effectivement matérielles. La délégation de responsabilité doit respecter toujours deux conditions. La première, c'est qu'elle ne peut pas être totale, sous peine de perdre assez vite le sens des réalités, sous peine de perdre le contact avec le monde réel. Les responsables politiques français ont commencé à se déshonorer publiquement dans les années 70, quand ils ont cru bon, lors de débats télévisés, de s'interroger mutuellement sur le prix du pain. Sur le prix du pain. La deuxième condition qui vaut pour tous les métiers, c'est qu'on ne peut diriger correctement que des activités qu'on connaît. Dans ma précédente paroisse, à Saint-Louis-d'Antin, il y a un bel auditorium, c'est l'espace Bernanos, avec un matériel technique de pointe qui est confié à un régisseur. Et ce régisseur, je ne pouvais pas le manager parce que j'étais incapable de le remplacer. On a en France la fâcheuse propension de confier à des technocrates des activités dont ils ignorent l'essentiel. Même dans l'Église, un certain nombre d'évêques n'ont jamais été curés. Moi, je me rassure parfois en me disant que le Seigneur ne m'a pas appelé malgré mes péchés. Le Seigneur m'a appelé à cause de mes péchés. Parce qu'il sait que un cancre peut faire un bon prof. Parce qu'un cancre comprend bien les autres cancres. Il a été l'un d'entre eux, il ne se laisse pas abuser par tout ce qu'ils peuvent raconter. Vous savez, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Cela étant dit, je voudrais vous livrer deux réflexions ce soir sur ce geste du lavement des pieds. Dans l'Ancien Testament, les livres de sagesse s'adressent surtout aux puissants de ce monde, aux princes, aux rois. Vous pouvez les reprendre. C'est assez étonnant de voir à quel point ils s'adressent plutôt à l'élite. Tandis que Jésus s'est entouré d'hommes simples, d'hommes du peuple. Et il fait avec eux, pour eux, ce geste très particulier, à un moment très particulier également de sa vie, c'est-à-dire au moment de donner sa vie, au moment de passer de ce monde à son Père. Et c'est d'autant plus surprenant que dans les 3 années qu'il a passées avec eux, il n'y a jamais rien eu de tel. Pour prendre un seul exemple, dans la maison de Marthe, chez Marthe et Marie, quand il est interpellé par Marthe en disant « Regarde, dis quelque chose à ma soeur. » Jésus ne lui dit pas « Je vais t'aider ». La leçon qu'il donne est toujours une leçon spirituelle, pas morale, spirituelle. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ce n'est pas à prendre, si je peux dire, au pied de la lettre. La puissance de ce geste tel que nous l'avons réintroduit dans la liturgie, vient de son caractère totalement inattendu et exceptionnel. Ce qui m'amène à ma deuxième réflexion sur le choix, non pas des pieds, mais de ce geste d'ablution, de lavement. Alors que Jésus avait à plusieurs reprises sévèrement critiqué l'importance que les pharisiens donnaient à toutes les ablutions, à toutes ces pratiques de purification extérieure. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous purifiez l'extérieur, mais l'intérieur, c'est l'intérieur qui est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur pour que l'extérieur aussi devienne pur. Purifie d'abord éclaire ce que Jésus dit à Pierre. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Quel est ce bain qu'ils ont pas qu'ils ont pris, qu'en réalité ils vont prendre. C'est le bain du baptême, c'est la plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà ce qui se passe pour le Christ ce soir et pour les apôtres et pour nous ensemble. Cette plongée par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ, c'est ce qui est actualisé, revisité, revivifié à chaque messe. C'est ça la messe. C'est ça aussi la mission principale du prêtre. Et c'est pourquoi nous fêtons les deux aujourd'hui. La messe et les prêtres. Nous qui avons reçu l'ordre, justement, de nous mettre au service de tous, de toutes les nations, allez, baptisez-les et apprenez-leur à observer les commandements que je vous ai enseignés. Pourquoi vivons-nous une telle crise aujourd'hui des vocations de prêtres, des vocations sacerdotales? Une pénurie croissante de prêtres, de messes, de baptêmes. Pour que nous nous convertissions, pour que nous, prêtres des grandes villes, apprenions à ce que vivent nombre de prêtres de campagne, isolés, pauvres, qui apprennent justement l'essentiel, à servir et à ne plus être servi. Ne plus être servi. L'être humain a la tendance, quand il a des personnes à son service, de se croire supérieur à elle, de se croire supérieur aux autres. L'humilité. L'humilité, c'était le sujet de la troisième prédication de carême cette année du Père Cantal Amessa, le prédicateur de la maison pontificale. Et il expliquait que c'est une vertu que les philosophes grecs n'aimaient pas. Les philosophes grecs ont connu, ont exalté presque, pratiquement toutes les vertus que nous considérons chrétiennes. La philosophie grecque est une philosophie pleine de sagesse, sauf l'humilité. N'aimez pas. Pour eux, c'était mesquin, c'était synonyme de bassesse. C'était trop petit. Et il cite cette belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila. Je me demandais un jour, pour quelle raison le Seigneur aime tant l'humilité? Et subitement, sans aucune réflexion de ma part, il me vint à l'esprit que ce doit être parce qu'il est la suprême vérité et que l'humilité est vérité. L'humilité est vérité. Jésus, ayant tout reçu de son Père, lui remet cette nuit toute sa volonté, lui remet tout entre ses mains. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'humilité est vérité.